on avait assez de leur divinité romaine, de leur panthéon romain, de toutes leurs statues et qui ne servaient absolument à rien. Ils éprouvaient le besoin de voir leur cœur être comblé par autre chose. Alors il y a ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ, et puis il y a ceux qui ont embrasé tout ce mysticisme oriental. Nous ne sommes pas dans la décadence de l'Empire romain, mais dans une décadence maintenant universelle, mondiale, et le même phénomène se produit maintenant à l'échelle universelle, et nous savons que c'est aussi la dernière fois qu'il se produit dans l'histoire de l'humanité. Donc, courant philosophique de la spiritualité grecque, courant orientaux, les faux docteurs s'inspirent aussi du judaïsme. On le voit quand on lit un petit peu les textes, mais ils nous y viendront. Et bien sûr, pour pouvoir tromper l'Église de Jésus-Christ, ces faux docteurs s'inspirent du christianisme. Une espèce de melting pot, de saligondi, de ratatouille, de conglomérat, de macédoine, issus de tous les courants qui étaient là dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Il y avait de quoi plaire à tout le monde. Je ne sais pas comment ça sonne à votre oreille, mais pour moi ça sonne terriblement fin du XXe siècle. Terriblement fin du XXe siècle. Nous aurons peut-être l'occasion de dire quelques mots sur le Nouvel Âge. J'ai passablement lu ce dernier mois sur le Nouvel Âge, des ouvrages qui ne sont pas d'ailleurs écrits de croyants, il en existe un excellent actuellement, mais les pères ou mères du Nouvel Âge, le Nouvel Âge respire ces conceptions que nous avons évoquées, mais nous y viendrons. Donc il s'agit d'une sorte de œcuménisme, terme très à la mode, en milieu évangélique. Alors qu'il y a 10 ans à peine, il faisait frémir les croyants. Il est devenu de plus en plus, ces derniers temps, un terme chéri dans nos milieux. Nous verrons ce que la Bible nous dit. Sagesse supérieure aussi, nous aurons l'occasion d'en parler, c'est ce qui la rend particulièrement attrayante aux esprits intellectuels croyants. Et bien sûr, le danger majeur, c'est que les Colossiens risquaient d'oublier que Christ est tout. Que Christ suffit pleinement, que son salut est un salut parfait, que l'espérance que le Saint-Esprit inscrit dans nos cœurs est une espérance vivante, totale, parfaitement fiable, elle n'est pas éphémère, elle est sûre et certaine. Dans les grands messages, j'étudie en ce moment la première épître de Pierre, et je me régale dans ce domaine de l'espérance vivante, on en a besoin aujourd'hui. Le danger des Colossiens consistait à vouloir chercher ailleurs qu'en Christ le secret de la plénitude. Chercher ailleurs qu'en Christ le secret de la plénitude. Et vous avez au verset 23 un petit mot, Colossiens 1, 23, un petit mot très suggestif. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner. Sans vous détourner. C'est un petit mot grec, on va l'écrire, hein, et puis on va jouer à une devinette avec ce petit mot. On va essayer de deviner ce qui se cache derrière ce mot, parce que je vais l'écrire dans nos caractères à nous. On va mettre le point, même si dans le grec il y a un mot de méta, méta qui nous met l'œil. Alors on va couper ici, il s'agit d'une préposition, d'un préfixe. On va couper ici parce que c'est une terminaison d'un participe. Et il reste, vous remarquez, ce petit terme radical à trois syllabes. Qui nous met. Alors, on s'est amusé à faire ça, non pas pour faire un peu de science linguistique, mais simplement parce que derrière ce mot se cache un mot français. Qui nous met. Est-ce que vous connaissez un mot français tout à fait ordinaire que nous avons tous les uns et les autres utilisé et qui se compose de trois syllabes, quelque peu modifiées, Et là, il y a une racine très importante. Kinomé. Vous voyez le mot qui se prononce vite comme ça, kinomé. Trois syllabes, hein. Un mot qui commence par qui. En français, on dira si. Si. Cinéma. C'est le mot cinéma qui est là. Vous voyez? Intéressant. C'est le mot cinéma qui est ici. Vous avez la racine kin. Et la racine kin a donné en français notamment le mot cinéma. Et kinéma, qu'on retrouve ici, transformé, ça ce sont les modifications de la langue grecque lorsqu'on l'utilise à certains temps, etc., n'est-ce pas? Le mot kinéma veut dire simplement mouvement. Et le cinéma, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le mouvement perpétuel d'image qui définit très rapidement et qui engendre donc le mouvement. Alors c'est intéressant. Parce que les Colossiens risquaient d'être sans cesse en mouvement. Comme le cinéma. Leur problème, c'est que, comme nous d'ailleurs, nous pouvons avoir ce problème, c'est-à-dire être tenté d'être un disciple du Christ dont la vie spirituelle ressemble au mouvement perpétuel du cinéma. Instabilité, recherche permanente de quelque chose de neuf, recherche de nouvelles sensations, recherche de nouvelles démonstrations intellectuelles, peut-être. Recherche de nouvelles expériences. Et comme nous l'avons lu hier, démangeaison d'entendre des choses agréables. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ou dit d'une manière beaucoup plus simple, une tendance à la superficialité et au déséquilibre. C'est Martin Luther qui disait ceci, l'homme est un cavalier ivre, tombé d'un côté, quand on le remet en selle, il tombe de l'autre. Et c'est notre plus gros problème. Nous avons tendance à être des cavaliers ivres. Vous savez peut-être si vous avez lu un des livres d'Alain Pertit, Les chevaux du lac Ladoga, qui développe le problème de la justice en France. Alain Pertit a intitulé son livre de cette manière parce qu'il l'introduit en faisant allusion à une bataille dans les pays scandinaves, à la frontière de la Russie, je crois, où des cavaliers se sont, disons, apeurés par le feu qui embrasait une forêt, se sont précipités dans un lac. Et s'est produit alors un phénomène très connu dans le domaine physique, les chevaux instantanément sont morts, bien sûr, et se sont en quelque sorte cristallisés, n'est-ce pas? C'est un phénomène assez extraordinaire, d'ailleurs, dans une des éditions du livre, on voit ces chevaux qui sont saisis, n'est-ce pas, dans la glace. C'est ce qu'on appelle la surfusion en physique. Et Alain Pertit dit, mais ça c'est notre problème. Alors il évoque le problème de la justice. Ou bien nous avons tendance à nous jeter dans le brasier hyper brûlant qui nous dévore, ou bien nous avons tendance à nous jeter dans l'eau à une température extrêmement basse. Il lui suffit que ces chevaux restent simplement le long du lac pour éviter le drame. Mais ils ont préféré aller dans l'eau et ça a été le drame. Et c'est une très belle illustration de notre problème. Dans notre vie de disciple de Jésus-Christ, dans nos vies d'église, c'est là notre problème. Nous avons tendance très vite à partir aux extrêmes. C'est là notre thème. On est en train d'y entrer de plein pied. J'aimerais, avant que nous commencions à considérer ces déviations, souligner simplement une chose qui n'est pas sans importance, à savoir que à Colosse, dans la région de Colosse, dans cette province, il y avait ce qu'on appelle en termes sociologiques un terrain, un climat, si vous voulez, favorable aux déviations. commentateur évangélique du début du siècle dira ceci, la population phrygienne avait un caractère en rapport avec la nature volcanique du sol. Et c'est intéressant de voir dans l'histoire de la région de Colosse tout ce qu'il y a eu comme déviation, comme tendance diverse. Par exemple, à Hierapolis, dont nous avons parlé, à 21 km de Colosse, il y avait le culte de Cybèle, c'était d'ailleurs même la capitale de ce culte. Cybèle était la grande mère des dieux, qu'on retrouve sous toutes sortes d'autres noms, dans le culte babylonien, etc. Et Cybèle personnifiait la force reproductrice de la nature. Bon, vous imaginez tout ce que ça pouvait vouloir dire au niveau de culte, d'orgie, de débauche sexuelle, etc. Et donc la capitale de ce culte se situait à une vingtaine de kilomètres de Colosse. Ensuite, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, au début du deuxième siècle avant Jésus-Christ, un grand potentat de l'époque, Antiochus III, Antiochus le Grand, avait implanté dans cette région une colonie de 2000 familles juives, qui étaient bien sûr venues avec leur judaïsme. Elles y avaient prospéré grâce au commerce de la laine teinte, elles avaient attiré d'autres coreligionnaires, ça avait fait passablement grincer des dents les juifs orthodoxes parce que ils avaient commencé à vivre une vie qui n'était plus très très fidèle au judaïsme. Ça a été le grand problème du judaïsme dans les siècles qui ont précédé la venue de Jésus-Christ, où il y a eu pas mal de compromis avec le paganisme, notamment avec la culture grecque. Mais toujours est-il qu'ils avaient attiré de plus en plus de juifs, et il y avait toute une influence juive certaine dans cette région. Et puis il y avait le culte des anges. Nous y reviendrons sur le culte des anges, parce que cela nous permettra de tirer des conclusions pratiques concernant certaines tendances que nous avons à dévier dans certains domaines. Et ce culte des anges était très développé dans les églises de toute la province. L'archange Michel était adoré dans un village à 4 km au sud, Kaunas, si bien même qu'au IVe siècle, le concile de Laodicée a interdit, entre autres, le culte des anges dans ses églises phrygiennes. Et ça a duré jusqu'au Moyen Âge. Au Moyen Âge encore, il y avait dans cette région, précisément à Kaunas, un culte des anges qui était développé. Or, il est question du culte des anges dans l'Épître aux Colossiens. Et puis, et ce n'est pas le moins curieux, une secte assez exaltée et ayant quand même un caractère, je dirais, assez évangélique par certains côtés, s'est développée au deuxième siècle dans cette région. Et cette secte, le montanisme, portait donc le nom de Montanus, son fondateur, et c'est une secte qui était très centrée sur le Saint-Esprit. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, mais je souligne simplement que vous voyez très tôt dans l'Église de Jésus-Christ, les questions du Saint-Esprit ont amené à des avis. Montanus se disait lui le paraclète, le consolateur dont il est question dans Jean 14 à 16. C'était véritablement, on peut dire, par certains côtés, un charismatique. D'ailleurs, il y avait des prophètes et des prophétesses qui n'étaient pas ordonnés de manière régulière, comme ça a été très rapidement le cas. Il s'appelait spirituel, intéressant, il s'appelait spirituel par opposition au psychique des églises qui commençaient déjà à se structurer, à s'instituer. Donc il y avait déjà des degrés qui s'installaient. Et nous aurons l'occasion de parler de hiérarchie et de degrés à l'intérieur de l'église. Alors ils annonçaient le retour immédiat de Jésus, ils étaient très centrés sur cette question du retour immédiat de Jésus, ils faisaient la guerre au luxe, ils étaient très rigoristes, très sévères vis-à-vis du luxe, ils étaient ascètes, et très en réaction contre le cléricalisme qui était en train de commencer à se développer. Parce que très vite, c'est là dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas, très vite le cléricalisme a commencé à essayer de s'installer dans l'église de Jésus. Bon, ça a mis tout un temps à s'élaborer, mais on voit très vite les premières déviances commencer à s'installer. Et puis, disons-le aussi, ces montanistes étaient en réaction violente contre un mouvement dont nous aurons l'occasion de parler, que j'ai cité tout à l'heure, le gnosticisme. Ce mouvement qui, au deuxième et troisième siècle, et surtout au troisième siècle, allait vraiment faire trembler l'église de Jésus-Christ. Heureusement qu'il y a des promesses dans les Écritures qui disent que c'est Jésus-Christ qui bâtit son église et que les portes du séjour des morts ne pourraient prévaloir contre. Parce que vraiment, l'église de Jésus-Christ a vécu des moments très difficiles à cause de ce gnosticisme. Mais nous en parlerons, ne vous inquiétez pas, et même si vous ne retenez pas le mot, ce n'est pas grave. Vous avez un personnage qui a été très marqué pendant un certain temps par le montanisme, c'est Tertullien. Vous avez peut-être entendu parler de Tertullien. Il a été très marqué, mais il n'est pas allé aussi loin. Il les a suivis pendant un certain temps, mais il n'est pas allé aussi loin. Alors, Paul va faire 4 mises en garde énergiques contre les divers aspects de déviation se manifestant dans l'église de Colosse. 4 mises en garde. Et avant de simplement les permettre de les noter, j'aimerais rappeler ceci, c'est que je suis très heureux que ce soit ce thème qui ait été choisi pour ce camp de famille. Parce que, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, c'est un thème essentiel dans les Écritures. Quand on voit le nombre de livres qui ont été inspirés par Dieu, sélectionnés pour figurer dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas ? Quand on voit combien d'entre eux sont tournés vers la dénonciation des déviations, de toutes les séductions, au premier siècle, c'est-à-dire dans la première et la deuxième génération qui a succédé à Pentecôte, donc dans l'église des deux premières générations, nous devrions attacher beaucoup plus d'importance que nous le faisons généralement à ces questions. Si vous nommez des livres, l'Épître aux Galates, nous en parlerons. L'Épître aux Galates, quand nous parlerons de légalisme, ascétisme, nous évoquerons l'Épître aux Galates. Toute l'Épître aux Galates est centrée sur une déviation qui était en train d'infiltrer toute une grande région avec des dizaines d'églises. Si vous allez dans les deux Épîtres de Pierre, surtout la deuxième Épître de Pierre, spécialement beaucoup plus que la première qui traite d'autres sujets, et la deuxième Épître de Pierre, dans laquelle nous irons de temps en temps puiser, les deux premières Épîtres de Jean, l'apôtre Jean a été vraiment préservé, protégé par Dieu pour vivre plus longtemps, beaucoup plus longtemps que tous les autres, puisqu'il est mort centenaire et qu'il a donc écrit l'essentiel des ouvrages, donc ses épîtres et l'évangile, dans les dernières années du premier siècle, et Dieu l'a réservé en particulier, notamment à cause d'un certain nombre de déviations qui faisaient des dégâts. Et quand on sait que l'apôtre Jean a joué un rôle d'ancien parmi les anciens, il avait un rôle très très important dans l'ensemble de toutes les églises d'Asie mineure, et il a été, je dirais, le formateur de grands hommes de Dieu, des hommes comme Polycarpe, comme Ignace, ont été formés au pied de l'apôtre Jean et sont devenus les premiers pères de l'Église. Ils ont joué un rôle énorme ensuite face à toutes sortes de déviations, n'est-ce pas ? Alors la première épître de Jean est très très intéressante parce qu'elle nous présente une carte d'identité de ce qu'est le véritable disciple de Jésus-Christ, parce qu'il y avait à la fin du premier siècle des jeunes croyants qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Pour des raisons bien précises, comment faire pour discerner le vrai du faux? Alors quand on me dit, comme on me l'a déjà dit dans certaines églises, oh vous savez, c'est Dieu qui jugera si un tel est croyant ou ne l'est pas, je dis pardon, La parole de Dieu nous dresse le portrait du disciple de Christ et nous montre à quoi l'on reconnaît si l'on est né de nouveau ou si l'on n'est pas né de nouveau. Qu'il y ait des situations tangentes, difficiles à discerner, surtout chez des personnes qui sont rétrogrades et qui meurent peut-être sans revenir au Seigneur, c'est vrai qu'il y a des domaines où nous n'avons pas à trancher. Mais dans bien des domaines, nous avons à nous prononcer. Et Dieu nous a donné la première épître de Jean, par exemple, pour cela. Et puis l'épître de Jude, par certains côtés l'Apocalypse même. Oui, on peut accumuler les livres pratiquement entiers ou des portions de livres du Nouveau Testament qui nous ont été donnés face aux déviations. Alors, vous pouvez noter, si vous voulez, les quatre grands repères de l'épître aux Colossiens concernant les déviations, chapitre 2, verset 4. Dieu est un excellent pédagogue et il a voulu nous aider et c'est pourquoi figure chaque fois le même terme dans le grec rendu par deux ou trois mots en français. Au chapitre 2 au verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc c'est le premier aspect que nous allons développer qui englobe tous les autres. Les discours séduisants. C'est ce qui qualifie en quelque sorte l'effet des philosophies trompeuses, etc. Ce sont des discours séduisants. Deuxième danger au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Les philosophies trompeuses. Les philosophies trompeuses, nous verrons que le terme philosophie doit être quand même entendu dans un sens assez particulier. Les philosophies trompeuses, mais que il ne nous empêche aucunement de considérer les problèmes créés par les philosophies sur un plan plus large. Ensuite, chapitre 2, verset 16, vous avez toujours cette expression qui revient, et que personne, hein, vous remarquez, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, ou ici la réalité, tout à fait palpable, pour bien le dire, est en Christ. Il est question ici du légalisme et de son frère jumeau associé l'ascétisme, en tout cas l'ascétisme apparent. Ça peut être parfois pour la galerie. On peut, tout en étant ascète aux yeux des autres, vivre dans l'impureté en cachette. Mais nous y viendrons. Ceci est d'ailleurs aussi développé au verset 20 à 23. Hein, si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposant ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ça sonne effectivement très légaliste. Et puis, au verset 18 du chapitre 2, quatrième danger, que personne, vous avez à nouveau cette expression, un petit mot en grec simplement, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, les voilà nos anges, hein, par un culte des anges, alors vous allez voir, on tombe d'élu quand on voit ce qu'on a été capable de faire. Dans ce domaine, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Illuminisme, il est question de culte des anges, d'abandon à des visions, et nous y ajouterons l'extrémisme doctrinal, parce que le culte des anges était un échantillon de l'extrémisme doctrinal dans lequel nous tombons facilement pour certaines raisons que j'expliquerai. Donc 2-4, les discours séduisants, 2-8, les philosophies trompeuses, 2-16 et 20-23, le légalisme ascétisme, 2-18, l'illuminisme et l'extrémisme doctrinal. Et voilà donc les les tendances à la déviation, les dangers et les pièges que l'Église de Jésus-Christ a connu tout au long de son histoire, finalement, et continue à connaître, peut-être plus que jamais aujourd'hui, certainement plus que jamais aujourd'hui, tout simplement parce que l'avènement de Jésus-Christ est très proche maintenant. Satan sait que ses jours sont comptés, et donc plus le dénouement est proche, plus l'ennemi se manifeste, rassemble ses armées et essaie en particulier de séduire les élus. C'est ce que Jésus disait hein, dans Matthieu 24, s'il était possible de séduire les élus. Prenez garde, Jésus est extrêmement solennel. Et nous lirons ces textes de Matthieu 24, notamment lorsque nous verrons certains des aspects. Alors, demain matin, nous allons commencer à nous pencher sur les discours séduisants, cette caractéristique qui décrit l'effet des autres déviations, les discours séduisants. Nous voulons simplement prier.
Dans Colossiens chapitre 2, les versets 4 à 7. Colossiens chapitre 2, versets 4 à 7. Après avoir donné une définition, le mot est faible, de Jésus-Christ, sur laquelle nous reviendrons au verset 2 et 3, l'apôtre Paul précise, je dis cela, verset 4, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. L'armée bien organisée, des rangs ferrés, des combattants, l'armée prête pour la bataille, et la fermeté de votre foi en Christ, comme un camp militaire solidement retranché face à l'assaillant. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Nous avons hier considéré le problème des Colossiens dans ces grandes lignes, dans ces lignes générales. Et nous avons remarqué que, en particulier, sur la fin de notre étude, qu'il existait à Colosse et dans cette province, généralement en Phrygie, un terrain favorable aux déviations. Nous avions évoqué le culte de Cybèle, la grande mère des dieux, la forte présence juive dans la région, avec l'influence du judaïsme, comme nous aurons l'occasion de le voir, le culte des anges, sur lequel nous nous arrêterons aussi, et cette secte exaltée qui se centrait d'une manière toute particulière sur le Saint-Esprit à partir de son fondateur, Montanus, qui lui-même s'apparentait aussi d'un fait même au Saint-Esprit. Nous pourrions dire qu'il existe aujourd'hui un terrain plus que jamais favorable au développement de toutes sortes de déviations dans l'Église de Jésus. Si vous vous souvenez, nous avions souligné au passage dans notre introduction avant-hier que Colosse était située sur une grande voie d'accès, de pénétration, qui partait d'Éphèse en bordure de mer pour s'enfoncer dans la montagne à l'intérieur et remonter d'ailleurs de là jusqu'à l'Euphrate. Grande route. Et il est évident que les voies de communication n'ont pas dans l'histoire était seulement intéressant pour les questions de commerce, pour les questions aussi militaires, mais elles ont été intéressantes pour la circulation des idées. Et on peut comprendre que Colosse ait été dangereusement concernés par ces questions de déviation de culte parce que les idées pouvaient circuler beaucoup plus facilement à cause de cette grande voie de passage. Alors il faudrait parler aujourd'hui de toutes les voies de communication. Nous vivons dans un monde où les communications sont devenues extrêmement faciles, on saute très vite d'un coin à l'autre du globe, et donc les idées circulent très vite. L'Orient vient beaucoup plus vite à nous que dans un passé encore récent. Alors ça, c'est déjà un terrain, n'est-ce pas, très favorable. Et puis, nous vivons, nous l'avons souligné, dans un monde où, surtout en Europe occidentale, ayant évincé Dieu, ayant mis Dieu plus ou moins poliment à la porte, on a donc ouvert tout grand l'accès des cœurs à toutes sortes de divinités. Et il est évident que cette ambiance, marquée par l'occultisme, les courants orientaux et tant d'autres courants, fait pression sur l'Église. Et fait pression sur une Église qui, reconnaissons-le, en nous y impliquant dans nos pays d'Europe, est dangereusement malade. J'espère que cela ne vous surprend pas. Cela doit en tout cas nous attrister lorsqu'on compare l'état de l'Église de Jésus-Christ dans nos pays d'Europe à son état dans d'autres pays du monde bien moins favorisés. Et où même si l'Église connaît une certaine fragilité essentiellement parce qu'elle grandit vite en quantité et que l'intendance ne suit pas toujours, la formation, l'enseignement ne suit hélas pas toujours ce qui la fragilise, c'est une Église qui a une vitalité et une vision que nous avons perdue. Le matérialisme, les courants philosophiques issus de la Renaissance et des siècles qui ont suivi jouent aussi un rôle énorme. Et tout cela fait pression sur l'Église. Et l'Église est une passoire. Et c'est pour cela que nous sommes très concernés. Jamais, certainement, dans l'histoire de l'Église, dans nos pays, la situation n'a été aussi tristement favorable au développement de déviations destructrices dans nos églises. Et c'est pour cela, une fois de plus, que un tel thème est d'une importance capitale pour nous. Ceci dit, nous l'avons annoncé, nous le faisons donc, nous abordons le premier danger indiqué au verset 4 du chapitre 2, je dis cela, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Nous ne nous occupons pas encore de la nature des déviations, des doctrines incriminées, de l'essence même. Ceci va nous occuper dans un deuxième temps. Ce que nous voyons, et nous l'annoncions hier, c'est la caractéristique, ce qui qualifie, ce qui décrit l'effet de ces philosophies trompeuses qui vont nous intéresser, du légalisme, de l'ascétisme, de l'illuminisme, de l'extrémisme, tous ces ismes et ces séismes qui secouent l'Église de Jésus-Christ. Tout cela, tous ces ismes, ont la même particularité, c'est qu'ils sont très séduisants comme discours. Et j'aimerais en introduction souligner tout d'abord ceci. Qui doit se sentir plus particulièrement concerné par les discours séduisants? Pas forcément celui qui est ensommeillé spirituellement. En général, ceux qui sont dans cette situation, le Seigneur les laisse dormir ou les plonge dans un sommeil plus profond. Par contre, le danger est grand pour le disciple de Jésus-Christ qui est mû par une saine ambition, qui est assoiffé du meilleur de Dieu, qui en veut, qui est désireux d'entrer dans son intimité, qui ne veut pas se contenter de médiocrité, il veut être un croyant plus consacré. Et il se dit, s'il y a une bénédiction pour moi, quelque chose qui me permette d'être plus épanoui, de mieux servir, de mieux connaître, je ne veux surtout pas passer à côté. C'est une attitude tout à fait respectable,
tout à fait souhaitable que celle d'avoir vraiment soif, d'en vouloir. Mais vous connaissez tant soit peu la tactique du diable. Nous avons dit que ceux qui sommeillent, ben, ils les fait sommeiller davantage. Mais ceux qui ont envie de foncer, quand il ne peut pas les freiner, il leur donne la petite chiquenote de plus pour qu'ils passent aux extrêmes. Et très souvent, on entre dans une déviation, nous le verrons, pour le légalisme et dans tant d'autres domaines, non pas par désir de médiocrité, par stagnation, mais au contraire, parce qu'on a soif. Et on ne voit pas le petit coup de pouce que l'ennemi nous donne, parce que son rôle, sa triste vocation, est de pourrir tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est bénédiction, tout ce qui vient de Dieu. Il fait tout pour le caricaturer, il fait tout pour l'imiter, mais les imitations du diable, oui, sont des caricatures, trompeuses, destructrices, et on se réveille un jour, en réalisant qu'on est passé à un extrême et qu'on a peut-être même fait des dégâts autour de soi, dans la vie d'autres personnes autour de nous. C'est donc une personnalité attrayante, réputée pour sa spiritualité, se présente si un orateur bien connu vient avec un message à sensation originale, sortant de l'ordinaire, s'il annonce un quelconque secret en vue d'une bénédiction, on est en vue. Et à l'heure actuelle, disons-le, on a assez facilement tendance à essayer de détecter, de courir les grands événements évangéliques liés à des personnalités. Parfois, il y a un engouement et un succès et qui, disons-le, sont par très douteux. Parce que il ne suffit pas de porter un grand nom pour être forcément crédible aux yeux de Dieu. Nous allons le voir. J'ajouterai ceci, c'est que nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un monde très tourné vers les plaisirs. Il faut savoir que, si je me souviens bien, à Rome, au 1er siècle, à l'époque où l'apôtre Paul écrivait l'épître aux Romains, il y avait, je crois, 192 ou 194, je vérifierai, jours chômés. C'était des jours de fête. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente comme proportion. Et la plupart de ces fêtes étaient organisées par l'État, en quelque sorte. C'était les jeux du cirque, etc. Et vous savez que la grande devise à cette époque, c'était Panem et circenses, du pain et des jeux, c'est ce qui nous intéresse. Nous en sommes là actuellement. Nous vivons dans un monde qu'on appelle un monde hédoniste, qui est très sensible à cette question et qui bien sûr, de toute façon, voit son temps de travail se réduire pour toutes sortes de raisons et qui se tourne vers les plaisirs. Il y a donc une soif de bonheur, une recherche du bonheur. Et parfois, l'Église de Jésus-Christ essaye de profiter de cette aubaine pour présenter l'Évangile comme le bonheur, occultant, oubliant de préciser que il y a aussi la croix. Et que la vie avec le Seigneur est un combat dans le repos, mais fait aussi de larmes, et qu'en réalité l'essentiel pour le disciple de Christ n'est pas le bonheur. Nous aurons l'éternité tout entière pour vivre dans le bonheur, le plus absolu qui soit. Mais sur la terre, l'essentiel pour l'Église de Jésus-Christ, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Et que il est faux de vouloir poursuivre le bonheur et devenir chrétien pour avoir le bonheur. On ne devient pas disciple de Christ pour avoir le bonheur, mais pour rencontrer celui qui est notre bonheur. Et il y a là déjà une subtilité de déviation, n'est-ce pas, à savoir que l'on est très centré sur le bonheur au lieu d'être centré sur Jésus-Christ. Et dans les discours séduisants, il y a cette tendance à être centré davantage sur une philosophie du bonheur qu'à être centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Je ne cherche pas le bonheur, je trouve le bonheur dans la mesure où je trouve Jésus-Christ. D'ailleurs, il faut souligner que les béatitudes n'ont pas la même dimension de bonheur que ce qu'on pourrait penser quand on envisage le bonheur. Et le texte grec utilise un terme qui n'a pas du tout la même connotation. Nous devrions dire béni plutôt que heureux. Le terme grec makarios évoque non pas un sentiment de bonheur subjectif, mais le fait d'être béni de Dieu. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On peut être béni de Dieu dans une situation extrêmement douloureuse, où les larmes coulent, mais où la paix est dans le cœur parce qu'on est au cœur de la volonté de Dieu. Voyez la différence. Alors, dans les discours séduisants, il y a déjà cette déviation subtile, n'est-ce pas, qui passe de Jésus-Christ à d'autres raisons, comme celle du bonheur. Vous avez au moment où Israël a quitté l'Égypte, des Égyptiens, vous le savez, qui se sont joints à Israël, qui ont profité de la belle aubaine, qui se sont dit, après tout, nous ne sommes pas juifs, mais si nous pouvons profiter du bonheur d'Israël, allons-y, n'est-ce pas? Et ce sont ces Égyptiens qui ont posé problème ensuite au peuple d'Israël et qui ont aidé à cette déstabilisation et à ces murmures. Par la suite, dans le désert, ils étaient là et ils avaient un petit peu ce que quelqu'un a appelé la théologie de Saint-Nicolas. Ceux qui sont originaires de l'Est savent ce que ça veut dire. Quand j'étais enfant, on avait l'habitude, début décembre, de voir passer Saint-Nicolas. Il venait distribuer bien des bonnes choses depuis sa hotte. Il venait frapper de maison en maison. Mais il était précédé, vous le savez, aussi du père Fouettard. Ça, c'était moins intéressant. Je suis d'origine protestante, réformée, ce qui fait que nous avions quand même une certaine distance par rapport à Saint-Nicolas, qui appartient d'abord à un folklore catholique et à un folklore païen au-delà. Donc, nous ne croyons pas à cela, mais j'étais bien heureux, début décembre, de profiter de ce à quoi je ne croyais pas. Comme les Égyptiens étaient heureux de profiter à ce à quoi ils ne croyaient pas. Et nous en sommes là aussi dans le monde d'aujourd'hui. On peut très bien ne pas accepter le Christ de la croix et vouloir accepter tout le bonheur périphérique et se retrouver même dans l'église de Jésus-Christ comme Égyptien, source de déstabilisation de l'église. C'est pourquoi aussi ce message est très important. J'ajouterai encore simplement ceci, c'est que nous sommes dans un monde, nous l'avons vu hier pour l'Empire romain, qui a soif de nouveauté. L'homme a soif de nouveauté, il en a assez des clichés du passé, de tout ce qui a raté. Nous sommes dans une jeune génération qui est totalement désabusée parce que ses aînés lui ont promis l'âge d'or, le bonheur, que ce soit dans le communisme, hein, on disait dans 50 ans il n'y aura plus de pauvres, etc., puis on voit ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la désillusion complète. Et il y a une soif de nouveauté, terriblement forte. Et dans l'Église aussi, il y a une soif de nouveauté, terriblement forte à l'heure actuelle. En région parisienne, on court en milieu évangélique maintenant d'un spectacle à l'autre, d'un concert à l'autre. Bon, c'est vrai qu'il y a du bon dans les concerts, mais si ça commence à remplacer l'étude biblique, la vie de prière, la fidélité dans le quotidien de la vie, si on a besoin, n'est-ce pas, d'aller s'anesthésier de lieu de fête en lieu de fête, c'est grave, c'est une forme de fuite hors des réalités et des nécessités de la vie chrétienne. Et ça, c'est un problème dont bien des serviteurs se plaignent profondément en région parisienne. Et donc, quand en tant que disciple de Jésus-Christ, on a aussi soif de neuf, on va se diriger vers une littérature qui nous propose du neuf, vers une prédication qui nous propose du neuf. Et c'est là qu'on risque d'avaler tout et n'importe quoi. Vous aurez certainement l'occasion de lire, et je vous le conseille vivement, un excellent livre sorti il y a très peu de temps, qui s'intitule « Les dieux du Nouvel Âge ». L'auteur de ce livre est une femme qui a 45 ans à peu près, Caryl Matriciana, qui est anglaise. Elle est l'enfant, enfin, elle fut le dernier bébé de nationalité britannique à naître juste avant l'indépendance des Indes en 1947, à Calcutta. Peut-être dans les heures même ou dans les jours même qui ont précédé l'indépendance. Vous savez, c'est traduit dans un bain de sang absolument épouvantable. Et elle a vécu les 19 premières années de sa vie aux Indes, elle est restée aux Indes jusqu'à ce que la situation soit devenue absolument insupportable. Et elle était issue d'une famille qui faisait partie des hautes sphères dirigeant les Indes du temps de l'Empire britannique, et son papa avait de très hautes fonctions. Elle est ensuite rentrée en Angleterre, où elle a vu, dans les années 60, la super production musicale Hair, H-A-I-R, qui a fait tant parler d'elle, puisque le commissaire de l'armée du salut, le commissaire Abadi, était à Paris monté sur l'estrade pour interrompre le spectacle et crier son indignation, ce qui a fait la une des journaux, et nous étions très heureux qu'un évangéliste, c'était un croyant authentique, prenne position. Et heureusement, parce qu'il se trouve que quantité de personnes, et notamment de jeunes, ont été séduits par cette superproduction qui était un avant-goût du Nouvel Âge. Quand on étudie un petit peu le contenu de cette superproduction, vous avez tous les ingrédients qui font ce grand courant multi-philosophique et multi-religieux du Nouvel Âge. Et il se trouve que Caryl Matriciana a été séduite par le message de cette superproduction. Et elle, qui était catholique, donc issue de haute famille, est repartie aux Indes, dans les ashrams, pour s'asseoir au pied de maître. Elle est allée ensuite en Californie, dans ses grandes communautés, au pied de maître également. Elle s'est droguée, elle a fait tout ce que l'on peut faire dans sa soif de nouveauté. Et puis finalement, après un certain nombre d'années, elle a rencontré Jésus-Christ. Et elle est devenue une des grandes spécialistes européenne de toutes ces questions du Nouvel Âge, des concepts de philosophie, religion orientale, etc., yoga et tout ce que vous voulez. Et elle participe d'ailleurs aux commentaires de deux vidéocassettes de 55 et 45 minutes qui s'intitulent « Les dieux de l'an 2000 », une réalisation américaine, évangélique, absolument remarquable, donc deux cassettes qui sont à voir en vidéo, donc parallèlement à la lecture du livre. Et je vous le recommande, parce que cela touche à des problèmes très actuels et qui sont en train de se développer très rapidement. Et je vous livre ici un court extrait, de temps en temps je vous donnerai quelques extraits de son livre. Son livre est une autobiographie à la fois, mais aussi un livre d'enseignement sur le Nouvel Âge et ses dangers. Et elle dit, n'est-ce pas, au moment où elle se souvient de ses réactions dans la superproduction R, au moment où l'un des artistes est en train de chanter et de rappeler toutes ses expériences mystiques, l'Inde, le yoga, la réincarnation, etc., nous disant que cela nous aiderait à évoluer, à nous développer, à nous ouvrir, à nous épanouir, elle dit ceci: je voulais tant dépendre de cette énergie, même si cela signifiait abandonner le vieux pour embrasser le nouveau.
et même si cela impliquait l'adoption de concepts que j'avais jusqu'alors considérés comme étranges et inquiétants, voire erronés. Le résultat en valait la peine. Vous voyez, le type de développement de pensée. Mais ça, c'était le cas de quelqu'un qui était régénéré, mais vous avez exactement le même type de raisonnement à l'heure actuelle, dans vos milieux évangéliques. Elle donne d'ailleurs, c'est intéressant, dans son livre, un certain nombre d'illustrations de ce qu'elle a vu vivre dans les milieux évangéliques qui s'apparentaient à des concepts de ce genre. Et je peux vous dire qu'en voyageant et en ayant beaucoup d'entretiens, de cures d'âme, de personnes qui s'ouvrent quant à leurs problèmes, je suis frappé de voir combien souvent on trouve des problèmes de ce genre à l'heure actuelle. La soif du nouveau qui fait qu'un jeune chrétien, ou parfois même un chrétien plus âgé, mais qui est mal dans sa peau, parce que mal centré, finit par partir à la dérive. Voilà, j'ai volontairement quelque peu insisté dans cette introduction pour montrer combien nous vivons un temps où nous devons être plus que jamais vigiles. D'autant plus si qui que ce soit d'entre nous se sent mal dans sa peau, n'est pas heureux dans sa vie avec le Seigneur, pense qu'il passe à côté de quelque chose, a soif d'aller plus loin, je dirais que c'est là que nous sommes les plus fragiles. C'est là que le Seigneur est heureux parce qu'il peut travailler, il a une argile molle entre les mains, mais c'est là que l'ennemi veut en profiter pour mettre aussi son empreinte, n'est-ce pas? Chaque fois que Dieu met son empreinte sur l'argile, sur le vase qu'il forme, l'ennemi est là pour y enfoncer ses coins. Ceci m'amène simplement à faire une première remarque essentielle sous forme d'avertissement. Attention aux apparences. Attention aux apparences. Ceci à partir du texte de Colossiens 2. Regardez avec moi le vocabulaire utilisé par l'apôtre Paul. Je dis cela afin que personne ne vous trompe, ne vous leurre, ne vous abuse, dit le texte original, par des discours séduisants, persuasifs. Une traduction dira par des raisonnements subtils, spécieux. Si vous allez un peu plus loin, au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Littéralement, le texte grec dit par un appât vide. C'est pas comment on peut appâter, mais c'est le néant, c'est creux, n'est-ce pas? On a l'impression de croquer quelque chose qui va nous nourrir et en fait, on a le ventre plus creux que jamais après l'avoir avalé. C'est l'image qui est derrière. Si vous allez plus loin encore, verset 18, il est question que personne sous une apparence d'humilité, sous une apparence d'humilité, ici, il est question de d'un prétexte en quelque sorte, sous prétexte d'humilité, pourrions-nous traduire, et par un culte des anges, etc. Si vous allez au verset 23, ils ont en vérité une apparence de sagesse. Le texte original est exactement une réputation de sagesse. Ils sont considérés au dehors comme étant sages. Mais bien sûr, ce n'est qu'une sagesse apparente. Alors, puisque le Saint-Esprit a guidé Paul pour utiliser ce langage très centré sur ces questions d'apparence, nous devons être sensibles au danger des apparences, au danger d'un regard ou d'une écoute superficielle. Vous avez le texte de 2 Corinthiens 11, qui est extrêmement solennel, verset 13 à 15, 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Il est question des faux docteurs, vous voyez, il y en a eu, hein. Ces hommes-là, ces faux docteurs, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est très fort. Et j'ai moi-même fait une recherche dans l'ensemble du Nouveau Testament et j'ai pu relever 40 passages solennels très importants centrés sur l'utilisation du terme séduction, du terme ruse. Et là aussi, j'ai été très frappé dans les explications que donne cette femme, Caril Matriciana, sur le Nouvel Âge. Elle compare l'ensemble des doctrines, des concepts du Nouvel Âge à un fond de tarte. Doctrine fondamentale égale fond de tarte. Et puis, il y a les garnitures, il y a les épices, les décorations, pour pouvoir avaler la pâte, hein, pour faire manger en quelque sorte la pâte. Et elle dit ceci. Les responsables et les avocats du Nouvel Âge n'ont qu'un seul but. Nous encourager à modifier radicalement notre façon de penser. C'est intéressant parce que nous allons parler de la connaissance et de la pensée. C'était un des objectifs de ces faux docteurs, de modifier radicalement la façon de penser des croyants dans toute cette région de Turquie, d'Asie. Donc, radicalement modifier notre façon de penser, de percevoir, de comprendre, d'agir, de sentir ou d'expérimenter. Ils ont créé, à cet effet, des combinaisons de garnitures alléchantes, riches en goût subtil, et la vision si appétissante, l'arôme si exquis de ce que nous sommes sur le point de dévorer, retiendra tant notre attention que nous ne ferons plus aucun cas du fond de tarte lui-même. C'est intéressant. Elle donne toutes sortes d'exemples. Il y en a un qui m'a beaucoup frappé. Elle dit, mais quand j'étais aux Indes, s'il y avait quelque chose qui me donnait une répulsion, c'était le yoga. Tout simplement parce que le yoga appartient, je dirais, à la philosophie de la mort. C'est une manière de se préparer à la mort. Or, à ma grande surprise, j'ai commencé à entendre aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, que le yoga était tout à fait autre chose, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de dérive mensongère et qui était destinée à appâter, n'est-ce pas, à faire accepter le yoga en escamotant sa raison fondamentale. Vous comprenez son objectif, son but fondamental. Et elle donne toutes sortes d'autres exemples de la manière dont elle a été surprise, mais suffoquée en voyant les dérives, n'est-ce pas, la réincarnation, qui est tant à la mode, qui se développe. On dit, je ne sais pas, je lisais ces derniers jours que 20% peut-être de même des gens en France croient à la réincarnation. Et là encore, la réincarnation, elle explique, n'est-ce pas, que dans ce monde de bouddhisme, même de l'hindouisme, dans tout ce monde oriental, la réincarnation est quelque chose de terrible, c'est un fatalisme épouvantable, parce que c'est lié à un sort qui est réglé à l'avance, la loi du karma, n'est-ce pas, qui fait que vous ne pouvez rien faire, n'est-ce pas, et puis c'est lié aux œuvres, aux mérites, et puis il y a le grand point d'interrogation semblable au purgatoire dans le catholicisme, hein, on ne sait jamais de quel côté on va tomber, etc., etc., n'est-ce pas? C'est terrible quand on y pense. Mais ça, c'est complètement escamoté. Dans les discours séduisants qui sont annoncés à la génération qui monte en Europe occidentale, n'est-ce pas? On veille soigneusement à ne pas montrer cet aspect dramatique, implacable, fataliste de la réincarnation. Alors on se sert du prophète Élie, n'est-ce pas, puisqu'il est dit que au début du Nouveau Testament, c'est lui, l'Élie, qui devait venir, donc il s'agit d'une réincarnation, mais on oublie de dire qu'Élie n'est pas mort. On ne peut parler de réincarnation que quand il y a eu une mort au départ. Or, Élie n'est pas mort. Il a été enlevé, n'est-ce pas? Et puis, il y a des textes clairs. Nous avons eu Hébreux 9, dans le même chapitre, il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Même dans l'Église de Jésus-Christ, il est des croyants qui
qui sont pris par ces discours séduisants et qui ont cette tendance, n'est-ce pas, à se dire, après tout, si à cause de ces quelques textes qui pourraient laisser entendre que, après tout, si c'était vrai. Alors que le message de la Bible est radicalement différent et puis tellement positif, n'est-ce pas, pour celui qui se tourne vers Jésus-Christ. Donc, attention au danger des apparences. Elle dit ceci aussi, c'est ainsi que des millions de gens aujourd'hui avalent sans s'en douter du cyanure spirituel camouflé. Du cyanure spirituel camouflé. Mais vous verrez combien, demain ou après-demain, nous serons concernés lorsque nous évoquons la doctrine. Au niveau de nos vies d'église, et de la nécessité d'être vigilant au niveau de l'enseignement, par exemple. N'est-ce pas, de ne pas accepter n'importe quel enseignement. Souvenons-nous, en parlant des apparences, que beaucoup sont passés à côté de Jésus sans le reconnaître. Au moment où Jésus, le Christ, est venu au milieu des hommes. Tout simplement parce qu'il se fiait trop aux apparences. Vous avez cette introduction au cinquième évangile dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, n'est-ce pas? Ça commence par là. Ça commence par là. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, verset premier? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mes amis, pour ceux qui s'attachent aux apparences, voyez un petit peu ici quel enseignement. Tous ceux qui se faisaient du Messie à venir une idée tellement fausse, d'un conquérant viril monté sur son cheval partant à la conquête ou à la reconquête d'un état occupé par l'ennemi romain, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que si l'on présentait un autre Christ, ce Christ-là serait accepté. Et il est accepté. Quand vous savez que des maîtres de l'hindouisme dans leurs ashrams aux Indes, vous donnent des conférences entièrement centrées sur Jésus-Christ, mais présentant Jésus-Christ comme un maître, et ce Jésus-Christ-là est accepté. Il ne pose aucun problème. Mais le Christ dont Paul nous parle dans l'Épître aux Colossiens, alors celui-là, c'est autre chose. Nous en verrons la description, et il est tellement glorieux et extraordinaire. On peut parler de l'erreur du vieux prophète Samuel, qui avait derrière lui tant d'années d'expérience, et qui est donc invité par l'Éternel à oindre, après avoir discerné, le successeur du roi déchu Saül. Et vous connaissez ce texte lorsque, dans le village de Bethléem en émoi, Samuel se trouve là, à la cérémonie, et qu'il voit l'aîné de la famille, Eliab, et dit, oh, certainement, loin de l'Éternel est devant lui. Et Dieu qui lui dit, mais non, Samuel, tu as beau avoir de l'expérience et des années d'âge, c'est pas le texte qui le dit, mais on peut le sous-entendre, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et puis tous les autres vont passer, et c'est finalement l'absent, hein, le der des ders, le Benjamin laissé au champ, qui va être le choisi, l'élu, qui va devenir, dans la pensée de Dieu, comme nous le verrons prochainement, le premier-né, lui qui est le dernier-né. Méfiez-vous des apparences. Vous savez que dans ce domaine, aujourd'hui, la publicité, les techniques de publicité jouent un rôle énorme pour nous amener à nous laisser amorcer par les apparences. Vous savez qu'il existe notamment un petit instrument qu'on appelle le pupilloscope, qui est destiné à pouvoir mesurer la dilatation des pupilles devant les programmes de publicité. fabrique donc de magnifiques programmes et on peut mesurer la manière dont le regard est accroché à la dilatation de la pupille. D'ailleurs, une technique qui était autrefois employée en Chine par les colporteurs qui vendaient le jade. Ils regardaient la pupille du futur candidat à l'achat, et s'ils voyaient la pupille se dilater fortement, alors ils mettaient en action toute une technique de vente, parce qu'ils savaient qu'il y avait là une amorce intéressante. Alors il existe donc cet instrument, et ça a donné lieu parfois à des choses très cocasses. Par exemple, des promoteurs de frites congelées ont présenté leur publicité, donc par film télé, sur le grand écran, et on voit une assiette avec des frites bien dorées, vous connaissez ça, hein, à côté d'un peu de verdure et d'un bistec. Et le pupilloscope a fonctionné, et il s'est trouvé que la réaction des pupilles à cette publicité était remarquable. Et donc les promoteurs s'attendaient à ce que leur vente soit très élevée. Ce qui ne fut pas le cas. Alors bien sûr, ils ont essayé d'examiner la chose pour voir d'où ça venait, et ils se sont finalement rendus compte, en affinant leur observation, que les pupilles se dilataient non pas à cause des frites, mais à cause du bistec. Mais nous sommes dans un monde, vous savez que même dans les librairies évangéliques, c'est le problème. On a été obligé de modifier les jaquettes et les présentations de livres. Parce que les meilleurs livres se vendent très mal dans la mesure où la jaquette, la couverture est mal présentée. Et c'est pour cela que régulièrement on a de nouvelles jaquettes, n'est-ce pas? Et ça montre l'importance de l'esthétique, de l'apparence. Et vous pouvez vendre des milliers de mauvais livres à bonne couverture et ne pas vendre les livres à mauvaise couverture avec un bon contenu. Bon, le mieux, c'est quand il y a à la fois bonne couverture et bon contenu. Mais c'est quand même pour dire, n'est-ce pas, combien, même là, nous avons les preuves du problème. Alors j'aimerais que, dans un second temps, nous prenions simplement deux ou trois textes qui corroborent, qui vont dans le même sens que Colossiens 2, sous la plume de l'apôtre Paul pour souligner ce fait. Mais nous allons les introduire par Acte 20, versets 28 à 31. Acte 20, versets 28 à 31, où l'apôtre Paul, dans son discours, ses exhortations, son témoignage auprès des anciens d'Éphèse, leur dit notamment ceci, Acte 20, versets 28 à 31, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, non pas au sens actuel du terme, qui implique une dimension de hiérarchie, mais au sens d'une fonction, d'une charge, d'un mandat confié par Dieu, d'intendance, de surveillance, d'économa. C'est un terme tout à fait équivalent, c'est la fonction grecque, si vous voulez, équivalente à l'ancien qui avait une origine juive, voyez, mais c'est une équivalence. Donc nous ne voyons pas une dimension de hiérarchie. Hélas, ensuite, il y a eu cette hiérarchie qui s'est installée, mais qui n'est pas du tout dans les Écritures. L'évêque est simplement chargé de veiller sur l'Église locale. Ce n'est pas un supérieur, c'est un frère aîné en maturité et que Dieu a choisi pour cette tâche et l'Église locale le reconnaît pour pouvoir exercer cette tâche. Épiscope, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et c'est là que ça devient extrêmement important et qu'il s'élèvera du milieu de vous. C'est là la subtilité de la puissance des ténèbres, n'est-ce pas? Du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses à nouveau, hein, la séduction, pour entraîner les disciples après eux. Alors, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'eux. Alors, l'histoire de l'église d'Éphèse, jusqu'à la fin du 1er siècle, nous montre que l'église a su résister remarquablement. Elle a eu des grands docteurs. Timothée a été l'un d'eux. Elle a eu ensuite l'apôtre Jean. Et il y a eu toute une série d'hommes de Dieu dans la lignée de l'apôtre Paul. Mais alors, il y a eu continuellement des tendances d'infiltration dans ce domaine. Et l'apôtre Jean va parler, dans la première épître de Jean, effectivement, du fait qu'il s'est introduit et que de l'intérieur même, des faux docteurs ont essayé et ont réussi à donner de faux enseignements. Mais c'est une église qui était solide, doctrinalement. Pensez à la lettre à l'église d'Éphèse d'Apocalypse 2, hein, dans laquelle il est dit que c'était une église qui avait du discernement. Il savait reconnaître les vrais des faux apôtres, les fausses doctrines des Nicolaïtes, etc., n'est-ce pas? Le problème, alors, c'est qu'ils avaient perdu le premier amour. Hein, père, prenez garde à droite, père, prenez garde à gauche. Vous connaissez cette parole célèbre dans l'histoire de France. Nous devons toujours prendre garde. Quand ça va bien dans le domaine de la doctrine, c'est peut-être l'amour qui est en train de se reprendre. C'était le cas dans cette église. Prenons maintenant Romains 16, texte très intéressant. Romains 16, qui est une épître essentiellement d'exposé systématique, une épître très générale, qui touche peu à des questions qu'on peut appeler de polémique, mais ici, il y a, malgré tout, dans ce chapitre 16, très personnel pourtant, il y a un avertissement. Verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Vous avez exactement le même langage dans Colossiens 2, dans la fin de Colossiens 2 notamment. « Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Ils séduisent les cœurs des simples. Ah, les simples. Qui sont ces simples? Eh bien, ces simples, ce sont les croyants, littéralement, le texte dit, sans méchanceté, sans malice. Le terme est parfois traduit, une fois traduit, par innocence, mais dans le bon sens du terme, en parlant de Jésus-Christ dans l'Épître aux Hébreux. Mais s'il y a une innocence lucide et sainte, il existe une innocence naïve et dangereuse. Et vous savez qu'on donne parfois au terme innocent un sens quelque peu péjoratif. On dit c'est un innocent. Et c'est là le sens qui est donné ici. Les simples, ce sont, dans l'Église de Jésus-Christ, des croyants sans malice, des croyants innocents qui ne voient point le mal. Des bonnes âmes qui n'ont pas spécialement toutes les ficelles du métier de la malice. Nous sommes tous tortueux, mais disons que certains sont plus experts dans ce domaine que d'autres, tout simplement, à cause d'éducation ou d'absence d'éducation, à cause de circonstances, à cause du climat dans lequel ils ont baigné et vécu. Vous savez qu'il suffit que les circonstances changent pour que les cœurs les plus innocents deviennent les plus terrifiants. On le voit, n'est-ce pas? Il y a des situations qui corrompent terriblement et en très peu de temps des gens qui jusque-là vivaient une vie qui était remarquable. Je me souviens d'un jeune homme. J'ai fait mon service militaire dans l'aumônerie militaire en Allemagne fédérale. Et je pense à un jeune homme d'un petit village
d'une famille d'agriculteurs qui avait vécu dans sa saine campagne et qui est arrivé comme un enfant de cœur, là, à l'armée. Et nous avons eu d'excellents entretiens dès son arrivée. Nous avons pu prier ensemble, ouvrir la Bible ensemble. Mais en 15 jours, il était devenu le plus pourri du régiment. Pas parce que son cœur était dans la température tout juste favorable pour l'éclosion de tout ce qui était en germe dans sa nature. Vous savez, c'est allé très vite, ça m'a moi-même beaucoup impressionné de voir sur si peu de temps combien la corruption pouvait aller vite lorsque le Christ n'est pas là, n'est-ce pas? Alors vous avez des croyants naïfs et je dirais que nous avons tous connu ce danger après notre conversion. Celui de la naïveté liée à la nouvelle naissance. Où nous avons un regard neuf, surtout. Et où nous vivons terriblement encore dans un monde d'illusions. Où notre cœur, parce que nous lisons qu'il faut aimer les autres, qu'il ne faut pas hésiter à donner ses vêtements si quelqu'un est en difficulté, etc., n'est-ce pas? Alors nous succombons volontairement et joyeusement en chantant la Marseillaise évangélique, n'est-ce pas, de bon cœur, peut-être à toutes les demandes. On se méfie pas. On se méfie pas. D'ailleurs, c'est Alfred Kuhn qui transcrira de cette manière, il cherche à séduire les chrétiens inexpérimentés. Je me souviens quand nous sommes devenus responsables d'une église locale en Bretagne, tout jeune dans le ministère, nous étions la seule église, disons, de tendance protestante dans la ville, officiellement reconnue, invitée à toutes les manifestations, etc. Et les services sociaux, y compris la gendarmerie, l'hôpital, etc., la mairie, bien sûr, considéraient que nous avions quelque chose à apporter dans le domaine social. Ce qui voulait dire qu'ils nous envoyaient toutes sortes de cas difficiles, des gens dont ils voulaient se débarrasser, et ce qui amenait à notre maison, notre appartement qui était contigu à la chapelle, donc un logement de fonction, on avait vraiment pignon sur rue. Ça nous amenait des gens jour et nuit qui venaient avec leurs problèmes. Et combien de fois, parce que j'étais simple, j'ai succombé à croire les boniments et les discours séduisants de ceux qui venaient se recommandant de tel autre serviteur de Dieu, n'est-ce pas ? Ayant telle carte de visite, etc., n'est-ce pas? Je me souviens d'une fois où, quelques années plus tard, nous avons eu la visite de la police, qui nous disait, vous n'avez pas accueilli telle ou telle personne, et après avoir eu la description, elle a dit, oui, elle est venue chez nous, et elle a voulu même loger chez nous, mais nous n'avons pas voulu parce que nous nous sommes méfiés, et heureusement que vous vous êtes méfiés, elle est allée chez le curé, elle l'a dévalidé. Vous voyez, mais, heureusement, entre-temps, nous avions appris. Alors c'est intéressant ce texte, n'est-ce pas? Il séduise les cœurs des saints. Sous prétexte que le texte de 1 Corinthiens 13 dit que l'amour croit tout, eh bien on va accepter tout et n'importe quoi. Quand il est dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour croit tout, c'est pas tout à fait ce que ça veut dire. Il suffit de lire le livre des Proverbes, qui est aussi inspiré de lui pour son Proverbe, quand même. Ça signifie simplement que l'amour ne commence pas par être négatif. Il ne part pas de présupposés négatifs. Il n'a pas un regard qui, dès le départ, suspecte. Il accepte d'être véritablement écoutant, et on ne peut écouter de manière valable si l'on n'est pas ouvert. N'est-ce pas? On ne peut écouter de manière valable si l'on n'est pas ouvert. Mais si on est carapassonné dès le départ et que tout de suite, d'emblée, on suspecte, on s'inscrit parmi ceux qui sont appelés, notamment dans le portrait des anciens, ceux qui traquent, n'est-ce pas, qui sont comme le chat qui est à la recherche de la souris. Et vous avez parfois des croyants qui, dans l'église locale, se croient investis d'une vocation de vestale qui doit entretenir le feu sacré de la sainteté dans l'église, et qui sont là, n'est-ce pas, avec un fusil prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Alors à cela, la parole de Dieu dit non, l'amour croit tout, c'est-à-dire que dans un premier temps, il est ouvert et il ne va pas dire immédiatement à la personne « vous mentez », avant même qu'elle ait pu développer sa pensée. Mais ceci dit, nous devons jauger, nous devons soupeser. Rien ne nous empêche ensuite de poser des questions, de nous assurer. Alors nous pourrions prendre d'autres versets bibliques qui vont dans ce sens. Vous avez d'ailleurs plusieurs textes qui vont dans ce sens. Je pense à Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, vous voyez l'homme simple, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Proverbe 14, verset 15. Proverbe 14, verset 15, vous avez Proverbe 8, verset 12, qui va tout à fait dans la même direction. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Et ceci est en relation très étroite avec ce qui est dit au verset 19. Alors au verset 19, il est dit ceci, pour vous, hein, Romains 16, 19, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Voilà ce qui s'oppose à ce caractère de naïveté et de mauvaise simplicité du croyant inexpérimenté et qui est donc plus facilement tenté de dériver. Je désire que vous soyez sage en ce qui concerne le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il importe d'avoir du bon sens. Que les capacités ne sont pas suffisantes. On peut avoir un gros cerveau, beaucoup de connaissances, et être d'une triste imbécilité. C'est peut-être un des grands problèmes d'aujourd'hui, où jamais le savoir n'a été aussi gros, et jamais nous n'avons eu sur la Terre d'aussi gros cerveaux, mais jamais d'aussi gros cerveaux n'ont dit autant de bêtises d'un certain nombre. Et ils sont crus, parce que ce sont de gros cerveaux. Ça, c'est aussi, nous le dirons dans notre conclusion sur ce premier point, ce qui fait que parfois, dans l'Église de Jésus-Christ, on accepte des énormités, parce que les énormités sont dites par des cerveaux énormes. Les critères de jugement de Dieu ne sont pas les mêmes que les autres. Et un doctorat en théologie n'est jamais synonyme, ou pas forcément synonyme, de sagesse. Bien loin de là. Bien loin de là. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la sagesse? L'ancien nom de la sagesse, c'est le mot sapiens. Et sapiens veut dire saveur. Et le terme latin, sapere, veut dire à la fois être sage et avoir du goût. Avoir du goût. Et en réalité, j'aime illustrer ou expliquer la sagesse par cette simple petite image, de la même manière que nous avons des papilles gustatives qui nous permettent de discerner les goûts, et que ces papilles gustatives, nous les jugeons, au point que dans Ecclésiaste 12, il nous est dit que il arrive un moment où les aliments n'ont plus de goût. La sagesse, ce sont les papilles gustatives de l'âme. C'est ce qui nous permet, quand on goûte,
de pouvoir discerner si ce qu'on goûte est bon ou mauvais. C'est un des organes extraordinaires dont Dieu pourvoit déjà l'homme qui l'a créé, mais qui est terriblement corrompu et complètement faussé par le péché. Ça, c'est le drame, n'est-ce pas, de l'homme en dehors de Christ, c'est que ses papilles gustatives sont terriblement usées par le péché, et qu'il est donc incapable, et que la vie n'a plus de saveur, et qu'il éprouve le besoin d'avoir des moutardes toujours plus fortes pour essayer de trouver mou dans sa vie. Et ce qui se produit à la régénération, c'est une véritable résurrection des papilles gustatives. On recommence à pouvoir goûter la bonté de Dieu, goûter combien le Seigneur est bon. Et vous avez combien de fois dans le Nouveau Testament cette expression de goûter, hein? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, 1 Pierre chapitre 2, dans l'Épître aux Hébreux, on commence par goûter aux prémices de l'Esprit, qu'il faut aller plus loin. La vie chrétienne n'est pas simplement pour les dégustateurs, elle est pour ceux qui passent au plat principal aussi après. Vous voyez, c'est ça la sagesse. Ce qui a d'ailleurs fait dire à Spurgeon, le prince des prédicateurs, ceci, la sagesse est la juste utilisation de la connaissance. Connaître n'est pas être sage. Bien des hommes ont beaucoup de connaissances, ils sont pour cela de plus grands insensés. Il n'existe pas de plus grand insensé qu'un insensé rempli de connaissances. Mais savoir comment utiliser cette connaissance, c'est avoir la sagesse. Et dans un sens, mieux vaut avoir peu de connaissances et bien la gérer sur le terrain du bon sens que d'en avoir beaucoup et engendrer de grands maux, n'est-ce pas? D'autant plus que c'est ainsi que la sagesse se développe dans nos vies. C'est dans la mesure où peu à peu nous apprenons à gérer les connaissances que nous acquérons et qui passe d'ailleurs du cerveau dans le cœur, c'est-à-dire dans l'ensemble de notre personnalité. Nous devons nous arrêter là, nous irons un peu plus loin demain matin. J'ajoute simplement, hein, exhortation à être sage en ce qui concerne le bien, et à être pur en ce qui concerne le mal, dit le texte. Pur en ce qui concerne le mal. C'est-à-dire que, autant quand on nous présente quelque chose qui est apparemment bien, nous devons goûter, soupeser, jauger pour savoir si c'est bien en profondeur ou simplement en surface. Autant nous devons tâter le terrain, autant par contre, face au mal, nous devons être des personnes radicales. Nous devons avoir une attitude radical, le terme est radical, il est dit sans mélange, sans mélange. Or, nous avons tendance, ça c'est la caricature de la puissance des ténèbres, à faire l'inverse. On avale parfois tellement vite des choses en apparence bien, alors que on est capable d'être tellement tortueux avec les questions dans le domaine du mal. Dieu veut qu'on fasse l'inverse. Quand quelque chose m'apparaît bien, je suis prudent. Est-ce qu'il y a une réalité de qualité qui plaît à Dieu en dessous? Par contre, quand quelque chose est mal, je coupe clairement, sans aucune hésitation. Voilà l'invitation très claire de la part de l'apôtre Paul. Moi, je pense que quand l'apôtre Paul disait ce verset, il faisait allusion à la parole de Jésus de Matthieu 10, 16. Nous devons joindre la prudence du serpent à la simplicité de la colombe. Les deux. Les deux dans notre vie. La prudence du serpent et la simplicité de la colombe. Ça, c'est l'équilibre qui va nous aider, entre autres, à avoir une juste attitude face aux discours séduisants. Et vous avez ce texte de Proverbe 26, versets 23 à 26. Proverbe 26, versets 23 à 26. Très important. Proverbe 26, versets 23 à 26. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres celui qui naît se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée.